À Blagnac, tout le monde connaît le monastère. Mais tout le monde ne sait peut-être pas que ce lieu paisible, calme, nous sommes en bord de Garonne, un peu en retrait de la ville, est aussi lieu de prière où, dans le secret des cœurs, la grâce se manifeste. Occupé successivement par des religieuses cisterciennes puis dominicaines, le monastère abrite aujourd'hui la communauté des Béatitudes. Le portail est ouvert et le chemin nous invite à entrer. Tout debout, et ce n'est pas très loin, nous attendent le père Michel Martin Prével, coordinateur de la communauté, mais aussi Marie, père Augustin, sœur Eliana, sœur Marie de l'Incarnation, Marthe, frère Jean de la Miséricorde, Constantin Dimitrov, Martine et bien d'autres visages qui, une journée durant, m'accueillent au monastère. Premier pas, première découverte, première rencontre. Le déjeuner vient de s'achever, c'est l'heure de la vaisselle et des échanges chaleureux et spontanés.
Bonjour.
Je m'appelle Martine. Alors moi, je suis mère de famille, donc mariée, mère de famille. Et dans la, en fait, je m'occupe à un niveau plus général de la formation de ceux qui rentrent, les stagiaires, et puis de la, je supervise la formation pour tous les laïcs de la communauté. Voilà, j'organise.
Et avec votre famille, vous vivez ici, au sein de la communauté, ici sur le site du monastère ?
Oui, on a une maison à l'entrée. Le site du monastère, en fait, le monastère a des dépendances et nous, nous habitons dans une des dépendances. Donc c'est une maison qui est indépendante, mais sur le site. Donc c'est un grand avantage.
Et il y a plusieurs familles qui vivent comme ça sur le site ?
Alors sur le site, on est trois familles. Et il y en a deux autres qui vivent dans le quartier, mais pas sur le site.
Le repas vient de se terminer, vous êtes en cuisine, à la vaisselle. Comment ça se passe ici, le quotidien des repas ici à la communauté ?
Donc en fait, il y a des sœurs, des frères aussi qui font la cuisine. C'est organisé, il y a un roulement, mais il y a quand même une responsable de la cuisine qui est Marie. Et puis elle a des aides qui tournent un peu, voilà. Donc c'est quand même une cuisine pour 70, 80, parfois 100 personnes. Donc c'est du travail.
Et tous les midis, enfin à l'heure du déjeuner, vous déjeunez toujours tous ensemble ?
Tous ceux qui sont là, oui. On déjeune tous ensemble à midi, tous ceux qui sont là. Il y en a qui sont en cours à l'Institut catholique, il y en a qui travaillent. Et puis le soir, les familles dînent chez elles et les frères et sœurs dînent en branche, c'est-à-dire les laïcs ensemble, ceux qui ne sont pas chez eux. Ensuite, les sœurs dans leur salle à manger et les frères de leur côté.
Moi, je suis frère Jean de la Miséricorde, Poda.
C'est vous qui allez prêcher ce soir?
Ben, c'est ce qu'on a annoncé. Je ne sais pas si c'est à la hauteur, mais bon, on va se remettre à l'Esprit Saint.
Pour que l'Esprit Saint en passe. Attendant, vous faites la vaisselle.
Oui.
Il faut être polyvalent, il faut savoir tout faire ici à la communauté. Ben, on passe d'une tâche à une autre.
C'est parfait ce que vous dites. En fait, on a plusieurs tâches ici. Moi, je suis en plus de ce que nous faisons en ce moment, étudiant aussi à la Cato. Je prends des cours. Et donc, quand je suis à la maison, je fais la vaisselle. Je travaille quelquefois à la cuisine, ça peut arriver. Il y a des frères qui sont qui font la poubelle, la déchetterie. Voilà. Et on donne aussi des cours de catéchèse. Donc, ici, on est polyvalent. Je suis conducteur aussi. Voilà. Voilà. Marie Salomé, que vous voyez, elle s'occupe très bien de la vaisselle. Et elle a aussi beaucoup de tâches dans la maison, mais discrète. Elle est très discrète, mais elle fait beaucoup de bonnes choses. Voilà, ça, je veux bien le mentionner, parce que c'est important. Voilà.
C'est une vie de communauté entre religieux, prêtres et laïcs. Vu de l'extérieur, je me dis, c'est peut-être pas facile, c'est pas évident. Et je suis arrivée, j'avais l'impression vraiment que c'était une famille. Vous vivez au cœur d'une famille.
Vous l'avez très bien dit, nous sommes vraiment une famille. Ici, vous avez dans certaines maisons des papas, des mamans, des enfants. Ici, par exemple, à Blagnac, nous avons des frères, des sœurs. Et parmi les frères, il y a des prêtres. Et c'est vrai que les familles n'ont pas les enfants avec eux ici en ce moment, mais quand ils viennent, ils ont la pause de les week-ends, ils viennent le voir. Et on sent vraiment que c'est vraiment une famille. Voilà, parce qu'on a tous les états de vie dans la communauté. Voilà, c'est ce qui est vraiment beau. Et ensemble, on travaille ensemble, les sœurs, les frères, les laïcs que vous voyez. Il n'y a pas de différence. Voilà, on est là vraiment en famille. Et chacun fait ce qu'il a à faire pour que tout soit à chacun à sa place, quoi. Voilà, et les choses marchent très bien. Voilà.
Et ce temps du repas, c'est un temps de partage, un temps de rencontre?
Ah oui, oui, c'est un temps de fraternité. Hein. Pendant le repas, on discute, on partage de ce que nous avons quelquefois vécu dans la journée. Moi, par exemple, j'ai un apostolat à l'école des sœurs, je viens d'Acacia. Donc, quand je viens comme ça, je peux parler de mon apostolat avec certaines personnes en disant voici ce que j'ai vécu. Et on se partage vraiment ce que nous vivons. Oui, c'est vraiment des moments de fraternité, on va dire comme ça, d'harmonie aussi. Voilà. Et on essaie de s'écouter aussi les uns les autres pour voir un peu qu'est-ce que l'autre a besoin. Voilà. Je crois que c'est vraiment l'idéal de la famille, quoi. Voilà. La famille, on est porté toujours voir aussi qu'est-ce que l'autre a besoin.
Le frère Michel est le coordinateur des trois branches, sœurs, frères, laïcs. Avec lui, nous partons à la découverte des lieux.
Il y a une communauté religieuse ici depuis 1852, donc ça fait plus de 150 ans. Avec deux communautés avant nous, des cisterciennes et ensuite des dominicaines. Voilà, nous nous dirigeons vers le château. C'est une partie du monastère qui est la partie la plus ancienne. On peut dire que c'est le monument historique de Blagnac parce que c'est le bâtiment le plus vieux de ce Blagnac, indépendamment du centre-ville qui était un petit village sur le bord de la Garonne. Et ce château date de 1650.
Un château de briques à coin de pierre.
Tout à fait toulousain. Alors sur un plan qui est intéressant parce qu'il a été refait sur le même plan dans 4 ou 5 endroits de la région. Alors ce château 1650, c'est une famille qui habitait ici avec un immense domaine à la porte de Blagnac. La particularité de ce château, c'est qu'il a été recouvert d'une toiture qui a été faite à la mode bourguignonne. C'est sa particularité. Et on y voit justement, vous voyez, sur ces tuiles plates, c'est très rare dans la région, des tuiles plates, c'est les tuiles plates de Bourgogne, et dans lesquelles sont inscrits des losanges en tuiles vernissées. Et ce sont donc des charpentiers et couvreurs bourguignons qui ont réalisé cela, et c'est ce qui vaut que le château soit classé, à cause de cette toiture très particulière. Sinon, c'est un château classique avec un grand rez-de-chaussée, un premier étage qui est en partie mansardé. Donc il n'est pas immense, mais il est très bien distribué avec deux grosses ailes. Voilà. Alors il a une belle façade qui regarde donc vers le village. Vous voyez là-bas au bout, on voit le clocher. Aujourd'hui, on a les arbres qui sont pleins de fleurs. Là, le prunier qui est devant, qui est rempli de fleurs. C'est tout à fait le début de la résurrection qui commence pour lui, en tout cas. Voilà, nous sommes au centre de cette ville de Blagnac, ici. Il y a heureusement un bon bout de terrain qui protège un peu la paix du monastère. Face à cette ville, qui est devenue très grosse, parce que c'est la troisième ville du département, Blagnac, qui a presque 30 000 habitants. Et on est aux portes de Toulouse, et bien entendu, c'est l'aéroport, c'est toute l'industrie aéronautique qui est très développée ici. Alors on a ce bruissement de la ville qui est tout près de nous, et un peu par contraste, les gens sentent ça. Les Blagnacais qui viennent ici, ils sentent ce contraste, espèce de lieu qui restait, pour ainsi dire, un peu à l'écart. Alors il n'y a pas beaucoup de terrain, malheureusement, on n'est pas loin, c'est tout près même. Et puis il y a eu du terrain qui a été donné progressivement à différentes activités autour de nous. Il y a là-bas, vous voyez, à même pas 100 mètres, il y a une école qui a été refaite pour la ville sur une partie des terres du monastère. Et puis de l'autre côté, c'est l'Arche. l'arche de Jean Vanier, où se trouvent à côté de nous des handicapés, des personnes qui travaillent avec elle. Et puis tout à fait en bas de la Garonne, il y a encore ces vergers et puis surtout ces potagers qui étaient sur les bons limons de la Garonne, qui sont donnés pour partie à une association de chômeurs qui vient faire des légumes là et qui revendent. Et puis également à l'Arche, qui fait là, ici,
du maraîchage
et des légumes bio qui sont très appréciés par les gens de Blagnac.
Et vous êtes en lien avec l'Arche ?
On est en lien avec l'Arche. Ils se sont installés à côté de nous parce que nous étions là, pour qu'il y ait à la fois la référence de la prière et pour eux, cette référence d'attention aux pauvres et des handicapés dont on s'occupe très bien. Alors dans ce château qui est devant nous, c'est la partie qui est réservée aux sœurs de la communauté, puisque notre communauté, vous le savez, est faite en trois branches, des sœurs consacrées, des frères consacrés, et puis ensuite des laïcs. Donc dans le monastère, qui est un vaste ensemble de bâtiments, si vous voulez, il y a ces trois parties qui sont bien marquées. Les sœurs sont donc dans le château, ce sont des jeunes sœurs consacrées, certaines font des études à l'Institut catholique, d'autres ont notre ministère, d'autres fonctions. Et puis nous avons aussi depuis peu de temps une partie du château qui a été aménagée avec des chambres un peu pour des personnes âgées à mobilité réduite. Ce sont nos vieilles sœurs de la communauté qui, à la suite des dominicaines, comme elles l'ont fait elles-mêmes avant, peuvent loger ici dans des chambres qui sont adaptées à leurs handicaps, tout en étant toujours au cœur de la maison et pouvoir bien sûr avoir les offices avec nous. Donc actuellement, il y a trois sœurs qui sont dans cette situation d'être aussi au cœur de ce château. Voilà, on appelle ça Bethléem, leur partie à elle. Voilà.
Vous me disiez donc que les Blagnacais ou autres qui viennent ici, qui s'arrêtent pour une heure ou plusieurs jours ici au monastère, viennent rechercher un havre de paix. Mais en même temps, vous êtes aussi, vous avez peut-être cette vocation aussi à rester en lien avec le monde, puisque ces bruits du monde vous parviennent. C'est la vie du monde que vous portez aussi, vous, dans vos prières.
Ah oui,
dans votre
alors,
communauté.
D'autant plus qu'il y a eu avant nous des cisterciennes qui étaient donc cloîtrées.
Oui.
Et ce sont elles qui se sont d'abord installées dans le château et qui, immédiatement après, en nous arrivons maintenant là, devant cette autre partie du monastère qui date de 1852, avec une grande chapelle que vous voyez là-bas au fond, et puis un grand bâtiment de trois étages dans lequel se trouvent les laïcs actuellement. Alors cet autre bâtiment qui a été construit en 1852, avec un cloître au rez-de-chaussée, ça c'est la partie, c'est aussi en briques, et ça c'est la partie où il y a des locaux qui servent à toute la communauté, et puis je viens de le dire, aux laïcs.
Mmh.
Alors c'est avant nous, il y a donc eu ces sœurs, des cisterciennes depuis 1852, auxquelles ont succédé des dominicaines cloîtrées également, à partir de 1938. Ces dominicaines ont été avec nous parce que nous sommes arrivés en 1988 et nous avons cohabité avec les dominicaines. Elles sont parties les unes après les autres vers le ciel. On les a d'ailleurs accompagnées, soignées, etc. La dernière est morte l'année dernière. Voilà. Donc cette permanence pendant si longtemps de consacrées, de religieuses cloîtrées, a succédé ensuite avec nous une communauté comme la nôtre, qui est une communauté donc plus apostolique, reprenant aussi la tradition de la prière, des offices, l'adoration du Saint-Sacrement, mais aussi nous sommes à l'extérieur, beaucoup d'entre nous ont un travail à l'extérieur, ou alors des missions dans l'église locale. Il y en a un qui est prêtre en paroisse, une autre qui travaille à la paroisse étudiante, il y en a qui sont professeurs à l'Institut catholique, d'autres qui ont des métiers, il y a un médecin, etc. Donc plusieurs frères et sœurs, surtout des laïcs, ont un métier à l'extérieur. C'est donc une communauté qui est à la fois une communauté de prière et en même temps une communauté missionnaire.
Et une communauté fraternelle.
Et fraternelle aussi, c'est évidemment très important qu'on retrouve cette unité, en tout cas, entre des contemplatifs et des actifs, entre des hommes et des femmes, entre des vocations différentes, consacrées, mariées, célibataires, laïques, ces vocations différentes, il y a aussi des prêtres, bien sûr, toutes ces vocations pour réaffirmer ce que le Concile Vatican II a rénové très bien, c'est l'appel de tous à la sainteté. La sainteté n'est pas réservée qu'à des carmélites au fond de leur couvent, c'est aussi pour tout le monde et c'est un peu notre part essentielle, notre charisme essentiel, c'est cela, c'est affirmer, si vous voulez, au monde que tout le monde est appelé à la sainteté.
Thank you. Et là, on vient de passer devant le local à vélo.
Oui, parce que là, il y a plein de vélos. Tous les frères fichent le camp à l'Institut catholique tous les jours. Ils pédalent, ils font 6 km jusqu'à l'Institut catholique. Ils longent la Garonne et ils arrivent à la Cateau, comme ça. Ça fait 20 minutes de vélo. Et puis surtout, ça leur fait de l'exercice, tous ces jeunes frères-là.
Formation, c'est une des vocations de la maison ici à Blagnac.
Alors tout spécialement à Blagnac, c'est vrai que c'est une maison générale où beaucoup de frères viennent dans un studium pour faire des études avec l'Institut catholique. Et pour ceux qui se destinent au sacerdoce, il y en a actuellement 18, ce sont des grands séminaristes, c'est-à-dire qui font le deuxième cycle, la théologie, les 3 ans de théologie. Donc de fait, ils sont 18 dans cette maison avec des prêtres pour les accompagner. Donc c'est aussi une sorte de séminaire pour nous, pour nos prêtres à nous, qui sont de la communauté des Béatitudes et qui auront des missions dans beaucoup de maisons du monde entier. Mmh. Puisqu'on l'a déjà dit, ici il y a beaucoup de nationalités, il y a des gens qui se retrouvent ici en tant que maison de formation, mais qui viennent de tous les continents.
Mmh. Est-ce qu'on peut parler ici de maison mère ? La communauté des Béatitudes a vu le jour, je crois, ici dans la région. Hein. Et ici à Blagnac, aujourd'hui, on pourrait parler de maison mère ?
Nous, on préfère dire maison générale parce que la maison mère, historiquement, c'était la première maison. C'est celle qui a eu à Cordes. Alors, les gens de la région connaissent ça. Ouais. C'est notre première maison qui date de 1975. Nous avons été très longtemps dans cette maison de Cordes. C'est là que la communauté est née. Ouais. Mais après, bien sûr, elle a essaimé dans beaucoup d'endroits. Et depuis quelques années, nous avons abandonné cette maison de Cordes parce qu'elle devenait un peu invivable, si vous voulez, ou difficile à transformer par rapport aux normes. Donc, nous ne sommes plus dans cette maison mère qui est restée la maison de Cordes. Et c'est pour ça qu'on préfère dire, pour vénérer un peu de loin cette première maison de Cordes, on préfère l'appeler ici la maison générale. Voilà.
Une communauté en lien direct, je crois, avec l'archevêque de Toulouse, mais en tant que Monseigneur Le Gall lui-même, ou ensuite les autres archevêques de Toulouse auront aussi cette vocation à être responsable de la communauté.
Non, c'est en tant qu'archevêque de Toulouse que Monseigneur Le Gall est l'évêque protecteur de la communauté. Il en est le supérieur ecclésial, si vous voulez. Et puis c'est aussi pour une autre raison, c'est que cette maison se trouve dans son diocèse. Mais c'est plus large que ça, c'est l'ensemble de la communauté des Béatitudes dans le monde entier qui dépend effectivement de l'archevêque de Toulouse. Donc aujourd'hui, Monseigneur Le Gall, de fait.
Les Béatitudes, ce nom de Béatitude, en quoi et comment peut-il être représentatif justement de ce que vous vivez, de ce que vous voudriez vivre ?
Vous savez qu'au départ, la communauté s'est appelée du nom de Lion de Juda et de l'agneau immolé. C'était les deux parties un peu de notre spiritualité profonde. Être à la fois ceux qui annoncent la foi. Le Lion de Juda, c'est celui qui proclame plutôt la résurrection du Christ, l'attente de la gloire. Et puis aussi l'agneau immolé, parce que c'est dans le travail, dans l'enfantement, et quelquefois un enfantement douloureux de ce monde. Alors c'est ce double aspect qui est toujours notre spiritualité, mais d'une façon plus extérieure. Et à un certain moment, parce que le nom de Lion de Juda et Agneau Immolé était carrément très incompris, on ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire, on nous mélangeait avec Judas, l'apôtre, etc. Vous voyez, c'était compliqué. Et parce que la communauté a connu à ce moment-là un développement beaucoup plus apostolique, nous avons reçu le nom des béatitudes, parce que c'est finalement la charte du chrétien, ce sont les 8 béatitudes qui veulent effectivement traduire tout ce que nous voulons vivre en nous mettant à la suite du Christ. Voilà, nous sommes dans le cloître. C'est un cloître en L. Ce cloître date donc de 1852. Il distribue depuis la grande salle à manger à l'autre bout, aux accès à la chapelle. Et puis aussi, le long de ce couloir, ici même, nous avons l'ancienne salle capitulaire qui nous sert maintenant de chapelle d'hiver. Parce que aujourd'hui, on ne supporte plus des églises trop froides. Et puis les gens qu'on accueille, et puis également le fait que nous avons l'adoration du Saint-Sacrement toute la journée. Donc en ce moment, le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel. Il y a toujours des frères et sœurs qui se relaient devant, ainsi que beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent prier.
Et là, sur un porte-manteau, alors je vois ce sont les
coules des prêtres, ouais, qui s'habillent ici avant de pénétrer dans la pièce à côté, qui préparent la liturgie. Alors c'est soit pour aller vers la chapelle d'hiver, Saint-Joseph, ou alors aller dans la grande église que nous allons voir tout à l'heure, qui est celle où nous célébrons quand il fait moins froid. Et là, dans la grande église, on est aussi, on se prépare par ici pour atterrir dans la grande église.
Ce cloître qui est très clair.
C'est effectivement très clair et ça a bien gardé son caractère. Ici, par exemple, nous essayons de toujours être dans le silence parce que c'est le lieu où on est près des églises et là où on se rappelle que nous sommes là pour le Christ. Voilà, c'est une petite discipline qu'on s'impose comme ça, d'avoir des lieux où on reste en silence. Voilà, en ce moment, voilà justement un frère qui arrive dans le cloître, il est en silence, il va certainement, il s'est préparé pour aller à l'adoration du Saint-Sacrement, qui a lieu tout près d'ici, l'adoration du Saint-Sacrement que l'on fait depuis le matin jusqu'au soir, dès l'aude jusqu'au vêpre, voilà.
Ce qui veut dire que vous vous inscrivez dans toute l'histoire d'un monachisme aussi. On a parlé des dominicaines, des cisterciennes. Vous vous inscrivez dans cette grande veine, dans cette grande histoire du monachisme, alors qui se vit aujourd'hui différemment. On est au XXIe siècle. Mmh. Alors, vous venez de nous parler de la règle du silence, par exemple.
Oui, nous avons gardé des choses qui sont des piliers pour la vie de prière en tout cas. Alors on est des contemplatifs aussi, et vous savez que notre spiritualité en réalité est carmélitaine. Nos maîtres à nous pour la vie d'oraison, c'est les grands du Carmel. C'est pour ça aussi que nous sommes en marron et blanc. Le marron, ça vient du Carmel, et le blanc pour rappeler plutôt cette vocation à proclamer la résurrection. Alors nous sommes carmélitains, vous voyez. Alors ce lieu, autrement dit, a été cistercien, puis dominicain et maintenant un peu d'un esprit carmélitain par la communauté des béatitudes. Voilà un beau mélange, n'est-ce pas? Mais c'est pour dire aussi qu'il y a aussi une certaine unité dans l'Église entre tout ce qui constitue la vie consacrée. Et que s'il y a des familles, la famille qui nous réunit tous, c'est l'Église. Hein, et dans l'Église, il y a des façons différentes de se consacrer, mais bien entendu qu'il y a des parties communes. Ben justement, la vie commune est un pilier très important dans la vie de prière, pour la vie de prière, pour toutes les communautés. Et puis tout simplement, le fait qu'on s'unit à la liturgie de l'Église par les grands offices, la messe, etc.
Donc là, c'est la chapelle Saint-Joseph. C'est là où se tient l'adoration.
Oui, c'est ça. D'accord. Je vais vous l'ouvrir et le refermer pour que vous voyez un peu. Voilà, alors ici c'est un peu plus froid, vous allez voir. Mais...
Alors ici c'est la chapelle Notre-Dame.
La chapelle Notre-Dame. L'architecte de cette grande église, c'est le même architecte que Sainte-Marie du Désert, que vous devez connaître. C'est une abbaye aussi cistercienne. Les pères y sont encore actuellement, c'est près de Toulouse. Et ça, c'était un peu du temps des cisterciennes. Ici, c'était la maison sœur de Sainte-Marie du Désert. Et c'est pour ça que les deux chapelles ont été faites à peu près à la même époque, au milieu du 19e siècle. Le même architecte. Donc ça ressemble beaucoup. Alors ici, par contre, il y a eu à partir de 1949, il y a eu ce projet de vitraux qui a été fait par quelqu'un de relativement célèbre, Louis Mazetier. Et c'est ce qui explique que tout est classé aussi. Donc il y a dans le chœur trois grands vitraux dominés par les rouges qui veulent traduire ce qu'est ici ce lieu qui est dédié à Notre-Dame des Sept Douleurs, avec le temps de Gethsémani, le temps de la crucifixion, le temps de la descente de croix. On voit aussi des religieuses en dessous qui sont cette fois-ci des dominicaines, parce que ça a été fait à l'époque des dominicaines. Et puis, de l'autre côté, il y a trois grands vitraux bleus qui parlent plutôt des mystères glorieux cette fois-ci. Et puis, sur le côté, cette grande fresque assez importante qui fait quelque chose comme 5,50 m sur 6 mètres. Et cette grande fresque représente la geste de Saint-Dominique avec tout l'ordre dominicain. On va s'en approcher pour en voir peut-être certains détails. Saint-Dominique est au centre, en bas, il écarte les mains et il porte une immense roue, comme une spirale dans laquelle on voit énormément de dominicaines cloîtrées. Et puis tout autour, il y a les grands saints dominicains. Saint Thomas d'Aquin, les saints Ambroise, Sainte Catherine de Sienne, etc. Tous les grands saints, y compris ces grands saints apôtres qui sont allés à l'autre bout de l'Europe. Donc il a voulu rassembler là un peu tout le fruit de Saint-Dominique. Voilà.
Et ici, vous célébrez donc...
Alors on célèbre ici dans la plupart des mois de l'année, quand il fait déjà meilleur. À Pâques, on va revenir ici. Et puis les restes des stalles, parce qu'elles ont été coupées, ils restent au fond des stalles qui correspondaient aux cisterciennes qui tenaient là leurs grands offices. Donc dans cette grande nef ici, il n'y avait que les cisterciennes au départ. Et sur le côté, en aile, il y a la partie des fidèles. Il y avait autrefois une grille qui n'existe plus maintenant. Et les fidèles arrivaient directement sur le côté.
C'était donc aujourd'hui nos premiers pas au cœur du monastère des Béatitudes. Demain, avec sœur Eliana, sœur Marie de l'Incarnation, Marie et frère Augustin, nous découvrirons comment laïcs et consacrés vivent ensemble dans la diversité et la communion des vocations. À demain !